que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
On s'intéresse aujourd'hui au Okapi Service, s'intéresse au tribalisme. Vous savez, c'est un fléau qui mine gravement la société congolaise. Dans certains milieux tels que les sociétés et universités, il suffit de parler la langue du village, du chef, pour entrer dans ses bonnes grâces. Les promotions, missions des services et autres avantages sont accordés en fonction des affinités tribales. Quels sont les effets, les conséquences du tribalisme sur le développement national et comment lutter efficacement contre ce fléau? Professeur Mouindambalé, Augustin, Saint-Augustin, historien des mentalités, notre invité. Encore une fois, bonjour professeur.
Bonjour monsieur, bonjour les auditeurs des radios Capi.
Professeur Augustin, c'est quoi le tribalisme?
Écoutez, le tribalisme, c'est un concept qui est connu de tous, qui provient du mot tribu, qui est une organisation sociale par tribu, mais le tribalisme, au-delà de ce concept des substantifs et tribalisme, il signifie également un comportement qui met au centre des préoccupations de l'activité de l'homme l'intérêt de la tribu. C'est-à-dire, la tribu devient les critères d'appréciation, d'acceptation, d'intégration dans un comportement humain, et au point, si tu n'es pas de la tribu, tu en es exclu automatiquement, et quand il s'agit d'un sujet tribaleux qui exerce le pouvoir, les critères d'admission, les critères de sélection, c'est justement l'appartenance à la même tribu. Celui qui n'est pas de la tribu est automatiquement rejeté comme un étranger.
Alors, professeur Augustin, dites-nous, qu'est-ce qui explique, quelles sont les raisons qui font que beaucoup de gens réfléchissent ou agissent souvent en fonction à des affinités tribales?
Bon, écoutez, il y a d'abord la notion complexe de la nature humaine. La nature humaine est faite de deux pôles. Il y a un pôle qu'on appelle animalier, l'homme attend qui est être animalier. Et ensuite, il y a un deuxième pôle qui définit l'homme attend qui est un sujet socialisant, socialisé, altruiste, appelé à évoluer, à composer avec les autres. Alors, dans sa première nature, qui est animalière, l'homme vit de l'instinct de conservation, de l'instinct de survie, voulant s'accaparer seul de son espace, des avantages liés à sa communauté, il en exclut les gens qui ne semblent pas avoir des ressemblances avec lui. Là, c'est l'homme sauvage, la nature sauvage de l'homme, qui peut aussi évoluer quand il est à contact avec les autres. C'est cette nature-là surtout qui persiste chez certaines peuplades du monde, jusqu'à prendre la tribu comme la seule référence possible, le seul critère d'appréciation, d'acceptation ou d'appartenance à une communauté donnée. Bon, il y a d'autre part des gens qui parviennent à surmonter cette difficulté, à se dire, nous ne sommes pas le seul à vivre en communauté, nous devons nous ouvrir à d'autres qui nous ressemblent, même s'ils ne sont pas de notre appartenance tribale. Alors ça, c'est la dimension humaine, altruiste de la nature humaine. Donc il ne faut pas se dire d'avance que l'homme est né tribaliste. Non, il est vrai. Si nous interrogeons la théorie d'Éphèse, qui considère les quatre pôles suivants, il y a d'abord la famille,
oui,
qui nous montre les valeurs, les coutumes, mais ce sont des valeurs closes, enfermées sur elles-mêmes. Le papa a montré le modèle de vie à ses enfants, à sa famille, à ses petits-fils, mais ces valeurs ne sont pas codifiées. Ils sont transmises de père en fils. Donc, c'est l'archétype familial qui dirige la famille.
Alors, mais professeur,
aussi, oui. Au moment où il entre maintenant à contact avec l'école, l'école codifie les valeurs positives qui ont été proposées par la famille en les ouvrant aux autres, en prenant les modèles communs, et c'est selon ces modèles communs codifiés que l'enfant va essayer d'accepter les autres qui n'ont pas le même nom que lui, qui n'ont pas la même culture que lui. Et une fois que l'école aura joué son rôle, il renvoie la société qui élargit avec les normes maintenant. Ici, on fixe les normes sociales pour appartenir à la société congolaise. C'est d'abord de s'accepter, d'accepter les autres. Et puis, à partir des normes,
professeur
l'État,
Augustin.
L'État élabore les lois. Voilà comment est-ce que les quatre pôles de théorie d'Éphèse se présentent.
Voilà, on retient que le tribalisme est lié à la nature humaine. Vous avez parlé de la nature sauvage, animalière, l'instinct de conservation de l'homme. Et d'autre part, l'homme a aussi une nature altruiste qui accepte les autres et qui s'ouvre aux autres. Aujourd'hui, on remarque même dans les milieux universitaires, si par exemple le recteur ou le secrétaire général académique est de telle province, eh bien, tous les professeurs de ces coins et les étudiants, les assistants sont favorisés. Par rapport aux autres. Il y a même des regroupements qui se créent en fonction des tribus. Les gens de telle partie du pays se retrouvent tel jour, ils ont des réunions, ils tiennent des réunions, bon, ils cherchent à s'entraider. Comment on résout ce genre de situations, professeur?
Est-ce que ce n'est pas mauvais, d'abord, au départ, de retrouver son identité culturelle, de s'en remémorer chaque fois qu'il le faut? Mais prendre cette identité culturelle comme valeur d'intégration, comme valeur d'acceptation des autres, c'est fausser déjà l'hypothèse de l'altruisme. Donc ces gens ont le droit de pouvoir se rencontrer, se regrouper pour se remémorer leur archétype social, leur mémoire collective, mais en faire maintenant des lois qui viennent déranger les lois codifiées d'une manière universelle, d'une manière acceptable par tous, là, ça devient une déviance. Et les gens qui continuent à s'enfermer dans ces carcans, on les appelle des conservateurs, des mauvais goûts. Car le monde ne peut pas être construit en termes des tribus, non plus d'ethnies. En Europe, on ne parle plus d'ethnie, on ne parle plus des clans, parce que les gens ont été appelés à se disperser, à voyager partout à travers le monde, à la recherche de l'espace, à la recherche de survie, cette notion est moins présente. Donc en Europe, on ne parle pas de tribalisme, on parle par contre de la petite souche qui est restée, le népotisme, c'est-à-dire le groupe de familles unies par une communauté d'ascendance réelle ou mythique. Voyez-vous comment est-ce que nos amis ont évolué. La petite ou le petit tribalisme qui reste au niveau juste de l'ethnie, papa, maman, enfant, tante, oncle, oui, on est tenté de pouvoir le servir, mais la loi intervient en vous disant, attention, il risque d'y avoir conflit d'intérêts, il risque d'y avoir népotisme, le travail est pour tous et pour les gens qui ne sont pas du clan ou de la famille, il faut en donner aussi à ceux-là. Alors, c'est ça les combles, la pesanteur chez nous, se relever de cette pesanteur-là.
Oui, professeur, vous savez qu'il y a même dans les ministères, dans les services publics, dès qu'on nomme un PDG de tel coin du pays, voilà, tout ce qui était dans les cabinets avant lui, alors, ils sont mis de côté, et voilà, il va reconstituer les cabinets en plaçant les cousins, les frères et sœurs tout autour de lui, et les travailleurs de sa province vont s'organiser pour organiser une fête, pour célébrer un digne fils du terroir qui vient d'être promu. Alors ça, c'est fréquent dans notre pays. On va y revenir tout à vous, professeur, dans quelques instants, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons Aline Justine Mbelou de Lubumbashi et Omar Kigalo de Kinshasa.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le top time de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment lutter efficacement contre les tribalismes dans la société congolaise? Justine Melou, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Kassama.
On vous écoute, Justine.
Oui, Monsieur Jody, je crois que bon, dans votre dernière intervention, vous avez abordé ce que je voulais dire, mais toutefois, je vais aborder le sujet dans le sens, dans son aspect tribalisme dans les entreprises.
D'accord.
Je crois que tout provient, comme vous l'avez dit, pour moi, tout provient des associations socio-tribales. Je crois qu'à l'époque, vers les années, entre 65 et 70, ces associations étaient là pour promouvoir les valeurs culturelles des tribus. Par exemple, la musique, la danse d'une tribu, tout ça. Les gens se retrouvaient le jour de l'indépendance, ils fêtaient. Bon, ça s'est limité là.
Oui.
Maintenant, aujourd'hui, ces associations tribales se sont transformées, je ne sais pas en quoi. Comme vous avez dit là, lorsqu'on nomme un dirigeant d'une entreprise,
oui,
automatiquement, c'est l'association tribale qui organise la réception. Et vous allez même voir, ils vont jusqu'à commencer même à faire presque une mise en place dans ce genre de réception-là. Mmh. Et ce dirigeant-là qui est nommé, il est vraiment affaibli, il ne sait rien dire, et tout se passe là-bas. Et vous allez voir, quelques jours après, il y aura des changements directement dans son entourage, dans ses bureaux, secrétaire, changement,
oui,
partout, les directeurs de cabinet. Bon, c'est ça que je voulais dire. Moi, je voulais en proposition que ces associations-là rentrent à leur valeur d'antan, comme je l'ai dit ici avant, qu'ils se limitent là, ils n'ont pas à gérer ces entreprises. Personnellement, j'ai même été victime. Je ne peux pas le dire parce que,
oui,
si je le dis au téléphone, on saura que c'est moi. Bon, je vous remercie, M. Joly.
Merci, Mme Justine Melou de Lubumbashi. Omar Kigalo nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Joly Kachamé, Merve à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien, on vous écoute, Omar.
Merci, je félicite d'abord madame qui est intervenue avant moi. Je suis très content que les femmes interviennent de façon pertinente. Le tribalisme, vous l'avez dit, je dis ronge, mais moi je pense qu'il faudra bien analyser les causes sociologiquement. J'ai lu un ouvrage de Yann Vancina qui lit 4 facteurs du tribalisme en Afrique. Premièrement, il dit que c'est une habitude sociale. Même le professeur qui est invité, je pense qu'il a aujourd'hui une fonction. C'est difficile qu'il ne mette pas le sien. Je ne dis pas que ça va arriver chez lui, mais c'est une habitude innée chez les Africains. Deuxièmement, les soucis de voir sa tribu dominer. Lorsque c'est Munga la dirige, il aime aussi voir les autres Banga la dominer. Il y a aussi les soucis d'aider les siens. Nous sommes Africains et nous sommes déterminés par la solidarité. Il est difficile qu'un Africain ne voie pas le sien là où il est en train de gérer. Et enfin, il y a la peur d'être trahi par les autres tribus. Exemple, un Moulouba peur de travailler par un Mongo, par peur d'être empoisonné, il s'est dit « si je travaille avec le mien, je me retrouverai ». Ce sont là les facteurs qu'on a pu trouver, mais qui ne sont pas très fondés. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait la conscience de ceux qui engagent. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un contrôle en amont et en aval. Par exemple, je vous donne le cas des avocats.
Oui.
Pour être admis avocat, il y a un contrôle. Et nos feuilles sont corrigées 4 fois par 4 correcteurs différents. Je vous dis, il y a même un fils d'un bâtonnier qui a échoué au test. Il y a même un avocat qui a échoué à ma tête. Il a voulu corrompre, mais jusque-là, on a
un peu
allé le faire ailleurs.
Oui.
C'est pour dire qu'il y a du sérieux au niveau du contrôle, des compétences. Et en la fin, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais je ne me limite pas là, je pose mes préoccupations au professeur qui est spécialiste.
Okay.
Je lis l'ouvrage de Yann Vancina qui fait la différence entre le tribalisme négatif et le tribalisme positif. Il dit ceci: lorsque quelqu'un nomme quelqu'un de sa tribu alors que ce dernier n'a pas de compétences, là, le tribalisme est négatif. Mais lorsqu'on nomme quelqu'un de sa tribu et qu'il est compétent, on ne peut pas parler de tribalisme négatif. Par exemple, un pasteur maire, son fils le remplace, mais son fils est compétent. Ou encore, un ministre, après son départ, met son fils comme directeur des cabinets,
oui,
mais ses fils sont aussi très intelligents. Je ne sais pas s'il peut faire la différence entre ces deux tribalismes.
D'accord.
Deuxième question.
Oui.
Joseph Kizerbo dit, on ne peut pas être nationaliste sans au départ être tribaliste. Comment le prof peut-il affirmer cette assertion? Il dit,
oui,
on ne peut pas être nationaliste sans au départ être tribaliste. Et pour finir, je dis, pardon, dernière question, quels sont les mécanismes selon les profs pour lutter contre le tribalisme? Merci beaucoup.
D'accord, merci Omar. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Daniel Jodin Kachama, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassou.
En vous écoutant.
Oui, ma première préoccupation était de savoir quelle est la différence entre le tribalisme naturel et le tribalisme professionnel. Dans ce sens, je peux aussi m'expliquer dans Saint-Jean. Voyez un peu ce qui se passe juste quand il y a l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons juste des recommandations des ministres, des députés, ainsi de suite. Et qui peut avoir un emploi? Maintenant, pour lutter efficacement contre ces conséquences, quelles en sont les conséquences de ce tribalisme? Voyez, mais les services ne sont pas rendus correctement. Pourquoi? Parce que celui dont on avait donné le service par son frère, il ne peut jamais être suivi. Sinon, en RDC, c'est catastrophique. Sinon, on peut commencer par exemple,
oui. Changer
des employés du jour au jour. Faire tuer de ce service, demain, tu ne seras pas ici. Et de l'autre côté, celui qui était de l'autre côté, quand on trouve cela, on passe par des réformes, on trouve que tu es incompétent et on te réduit. Par exemple, soit on te donne une place qui te convienne. C'est là où on pourrait aussi lutter efficacement contre le tribalisme.
D'accord.
Ah, pour finir, je dirais, ce qui se passe encore, quand encore le salaire, c'est presque encore difficile. Pourquoi? Parce que ce sera muté ici, les transports, l'arrivée, ça peut causer encore plus. Les ministres de travail, c'est ça ce qui ne sait pas aussi s'occuper correctement de ce service en vue qu'on puisse lutter efficacement contre les tribalistes.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga. Alors, bonjour et quelle est votre question, Albert?
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, meilleur vrai.
Merci, on vous écoute.
Oui, j'ai quelques questions à poser à notre invité par rapport à ce sujet.
Oui.
La première question est de savoir, existe-t-il une loi qui prévoit la lutte contre le tribalisme? Si oui, quel est son impact sur le plan sociopolitico-administratif ou éducationnel? Ça, c'est la première question. Et j'aimerais encore demander à notre invité qu'il puisse un peu nous donner les stratégies majeures à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre le tribalisme, si possible, si c'est possible, ici en RDC, où les gens, ils paraissent qu'ils sont nés avec le tribalisme. Et alors, j'aimerais qu'ils puissent se donner les
questions. D'accord. Merci Albert Mwananga. Professeur Saint-Augustin Mwendabalé, vous êtes historien des mentalités. Vous êtes également la tête d'une organisation qui lutte contre les antivaleurs en RDC. Alors, vous avez la première intervenante, Madame Justine de Lubumbashi, a parlé des associations socio-tribales qui avaient pour but de promouvoir la culture. Mais aujourd'hui, c'est là, il y a des déviations. Aujourd'hui, comment faire pour que ces associations rentrent dans leur objectif primordial?
Merci encore, Capi, et merci pour les différentes questions qui m'ont été posées. Bon, je dirais, les associations culturelles sont des marques d'appartenance et culturelle, d'identification culturelle. Nous avons un certain nombre de valeurs que nous aurions souhaité entretenir avec nous. Même aujourd'hui en Europe, on parle des carnavals, au Brésil, carnaval. Donc, chaque peuple est attaché quand même à ces valeurs qu'il juge être positives. Mais on ne s'attache pas à ces valeurs pour desservir les autres. Ces valeurs n'ont leur sens qu'au moment où elles peuvent continuer à être opérées sans porter préjudice à la vie des autres, à l'organisation sociale. Alors moi j'ai dit, avoir des groupes culturels, c'est une bonne chose, revivre les temps du passé pour ne pas perdre les traces des langues de ses parents, les dialectes de ses parents, c'est une bonne chose. Là, c'est ce qu'on appellerait, il y a un maître qui appelait ça, le tribalisme positif, qu'on pouvait ajouter aussi au fait que un frère qui mérite et qui est compétent à débaucher un emploi quelque part, auprès de son chef, ça ne tue pas.
Professeur Mwendabalé,
le bas blesse.
Professeur Mwendabalé, on a l'impression
oui.
que ces associations prennent en otage les ministres, les PDG et autres, parce que dès qu'on vous nomme, voilà, ces associations s'organisent pour organiser une grande fête avec pompe, et puis on vous amène des cadeaux, et pendant la fête, on vous conscientise, et puis il y a des mises en place déjà qui se font à ce moment-là.
Et là, nous entrons déjà dans la rubrique des stratégies à mettre en place pour lutter contre les tribalismes négatifs. Notamment, il faudra l'organisation de notre administration, les textes légaux puisse fixer les modalités d'embauche dans certaines structures étatiques. Et moi, j'en ai fait la proposition, qui se trouve sur le bureau du président de la République, puisqu'il veut vraiment qu'on puisse édifier un État qui est bâti sur les valeurs de bonne gouvernance. J'ai dit, par exemple, au niveau de ministère, qu'on prévoit dans les quotas du personnel engagé dans les cabinets, un tiers du personnel du cabinet sur les 11 conseillers, qui est par exemple un ou deux conseillers du terroir du ministre, mais un conseiller soit compétent. Comment organiser cela, nous le verrons. C'est pour ça qu'il doit y avoir parfois des tests d'appréciation, d'évaluation des agents qui travaillent dans les cabinets ministériels. Un tiers provenant du parti politique et un tiers réservé aux experts. Moi, je parle de ces triumvirats qui peut nous permettre de lutter contre les antivaleurs. Auparavant, les autorités avaient proposé que le directeur des cabinets ne soit pas originaire de la province du ministre. Mais aujourd'hui, il y a des ministres qui contournent cet argumentaire en prenant quelqu'un, en lui collant une étiquette d'une autre tribu, alors juste la personne appartient à sa tribu. Donc l'OFEP est là pour ça, pour identifier ce genre de comportement et de faire rapport au président de la République. Ça serait également le rôle de l'ombudsman, le médiateur de la République et dont le président de la République a parlé dans son discours du 23 octobre, un poste qui sera institué très prochainement, qui recevra toutes les plaintes de la République et les transmettra aux chefs de l'État, surtout les cas qui violent la bienséance juridique.
Professeur, professeur, il y a maître Omar Kigalo qui dit, il a cité Joseph Kizerbo, il dit, Joseph a dit, on ne peut pas être nationaliste sans être tribaliste au départ. Qu'est-ce que vous pouvez dire
J'ai pensé au maître, et il est vrai que Kizerbo a placé cet adage dans ce contexte plus ou moins générique. Il est vrai qu'on appartient à une tribu au départ. Mais la tribu, c'est une petite entité. On ne peut pas s'enfermer dans cette petite entité pour régler les problèmes du monde avec des pensées tribalisantes. Il faut avoir une projection en avant vers le nationalisme. Il est vrai, la nation est constituée de plusieurs tribus, mais on ne vous dit pas la nation est identifiée à une tribu. C'est ça que le maître doit comprendre. Et quand Kizerbo dit on ne peut pas être nationaliste sans être tribaliste, il est vrai, au départ, on est tribaliste quelque part, puisque la nation est composée d'une multitude de tribus. Mais la nation elle-même ne s'identifie pas à la tribu. Le nationalisme, c'est l'étape la plus élevée, c'est le summum de référence culturelle, puisque la nation, vous le savez, répond aux trois principes de l'État. Il faut qu'il y ait l'espace, il faut qu'il y ait le pouvoir organisateur, il faut qu'il y ait le peuple. Alors, on ne dit pas la nation congolaise est tribaliste.
Voilà.
La nation congolaise représente l'entité culturelle qu'on appelle congolaise.
Oui.
Et si on l'identifie comme nation congolaise, on ne plaide pas au nom des tribalismes.
Voilà,
c'est
professeur.
Une marque d'identification.
Voilà, professeur.
Il ne faut pas confondre avec la corruption,
voilà,
avec le tribalisme. Mmh.
Voilà, professeur, on va terminer tout à l'heure, parce que les dernières questions des auditeurs, ils reviennent sur les mécanismes, comment lutter, existe-t-il une loi qui lutte contre le tribalisme, les stratégies. Alors avant d'en arriver là, pour terminer cette émission, nous allons accueillir Berry Franklin Luchaka, qui nous ramène les questions et préoccupations des auditeurs postées sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Berry, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Alors, sur la page Facebook, qu'est-ce que les auditeurs disent?
Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs réactions, alors nous avons sélectionné quelques-unes. Par exemple, Jean Kerti de Mbujima, il dit que c'est vrai que l'injustice et le tribalisme sont à la base des conflits en Afrique et même surtout au Congo, et parce que les lésés veulent s'opposer et les privilégiés veulent s'imposer. Kani Lubango de Bounia demande, pose une question au professeur. Il dit que la philosophie bantou dit que le Muntu n'est fort qu'avec son frère. Comment le professeur trouve cette philosophie? Doit-on oublier cette phrase ou la garder pour certains cas, surtout pour des raisons de confiance et promotion, comme certains qualifient de tribalisme? Dan Josardine Mboko pense que c'est l'égoïsme qui trahit le Congolais, surtout que nous rencontrons ce problème dans les ministères au niveau national et provincial. sociale. Chenin Toumba pense que pour lutter contre le tribalisme dans les milieux de travail, par exemple, il faut d'abord avoir les hommes intelligents dans les institutions de recrutement des agents qui seront capables de distinguer l'intérêt commun de la nation et celui des familles coutumières. Enfin, Centurion Maïmbou pense que c'est difficile de radier le tribalisme car la main-d'œuvre au Congo est abondante, mais il y a peu de l'emploi. Bref, aussi longtemps que le marché d'emploi n'est pas favorable à tout le monde, c'est impossible de lutter contre ce phénomène. Même au niveau de l'église, on peut trouver le protocole comme sœur du pasteur, le président de l'orchestre, l'enfant du pasteur, la présidente des mamans, sa femme, et donc c'est un système de toute entreprise congolaise. Voilà, je vous dis.
Bien, merci Berry. Professeur Mwendambale, alors vous avez suivi tout ce qui vient d'être dit. Pour conclure, comment lutter efficacement contre le
tribalisme? Une loi sur le tribalisme, je peux rassurer les auditeurs des Radio Okapi, que l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, en tant que coordonnateur des activités anticorruption en RDC, a initié auprès du gouvernement le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal de 1940, la loi dite anticorruption. Et dans cette loi dite anticorruption, vous allez trouver un certain nombre d'infractions jadis non criminalisées, incriminées, qui prennent maintenant la dimension d'infraction, notamment les tribalismes, les clientélismes, les favoritismes. Et nous avons incriminé ces actes, nous les avons commués en infraction. Bientôt, la RDC sera dotée de cette loi qui complète l'arsenal juridique des infractions liées au tribalisme, clientélisme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à vous tranquilliser. Alors, concernant la philosophie Ubuntu, je trie ici au volet les questions qui me paraissent les plus pertinentes. Ubuntu, il est vrai que la force de l'homme africain se trouve dans l'autre. Et ça, c'est une philosophie qui est fondamentale. Mais l'autre ne signifie pas celui qui appartient à ma tribu, à mon ethnie, à mon clan. L'autre, c'est cet être humain qui a droit aussi à la vie, qui peut être mon semblable ou pas, mais que je dois respecter, c'est-à-dire respecter à tant qu'est tel, dans une philosophie qu'on appelle de l'empathie. Le Muntu est bien défini dans les Zoulous en termes de Ubuntu. Ubuntu, c'est l'humanité qui est dans l'homme. Dans chacun de nous, il y a ce qu'on appelle l'humanité. C'est le fait de se transporter à l'intérieur du cœur de l'autre, de vivre avec l'autre les douleurs qu'il est en train de ressentir.
Voilà, professeur. Oui, professeur. Alors, pour terminer, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Mais pour terminer, professeur, certains disent que le tribalisme a beaucoup de conséquences néfastes. Il y a des frustrations et ça empêche le développement national.
Il est vrai, le tribalisme empêche le développement national. Quand quelqu'un qui ne méritait pas parvient à occuper un poste clé, là où il va commencer à tourner les pouces, alors qu'il y a quelqu'un qui méritait, qui devait absolument occuper les postes, vous voyez, ça freine le développement.
Voilà.
Alors, comme solution pour lutter contre le tribalisme, je proposerais...
La loi.
Il faut appliquer la rigueur de la loi, telle que je viens de l'énoncer là-bas. La loi sera en notre possession. Organisation de notre administration de manière à combattre le tribalisme. Mais un, en introduisant le principe des concours de recrutement, et concours doit être diligenté par une équipe de sélectionnaires neutres, on peut faire appel à des experts, à des équipes étrangères, dans le cadre des MAEP, mécanisme d'évaluation par le PEP, qui recommande la charte africaine de l'administration publique. Il faut également qu'il y ait une fiche de cotation chiffrée. Jusque là, notre administration a coté les individus sans une mention exacte. On dit quelqu'un excellent en fonction de quoi? Il est toujours en retard, mais puisqu'il est le Moukala, le moineau de tel DG, il a été coté excellent par rapport à celui qui travaille, qui est coté médiocrement. Nous avons proposé la fiche chiffrée au niveau de l'administration publique. L'actuel statut déjà va vous en parler. Il faut aussi qu'il y ait l'évaluation pas en interne, c'est-à-dire les agents fonctionnaires de l'État, je suis dans le cas de notre administration, puissent également se prononcer sur la validité du discours, du comportement de leurs dirigeants. Et là, l'OCEP compte introduire une fiche d'évaluation interne que les gens émettront alors, et transmettront au niveau de l'administration.
Professeur, donc, je terminerai. Professeur Saint-Augustin, oui. Alors pour terminer, sûrement il y a peut-être certaines personnes qui voudraient dénoncer des cas de tribalisme ou des cas des antivaleurs, là où elles sont, elles peuvent vous joindre par quel numéro?
Ils peuvent me joindre au numéro 099,
oui.
Vous répétez encore 99,
mmh.
22,
oui.
036. À tout moment, nous sommes là pour montrer ce que nous sommes en train de préparer dans le cadre de l'implémentation d'une politique de bonne gouvernance qui recommande les chefs de l'État.
Bien. Saint-Augustin Mouendamba, historien des mentalités et président de la structure de lutte contre l'OCEP, hein, la structure qui lutte contre les antivaleurs dans les entreprises. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.